Je vais mettre le micro à ma hauteur. Et puis ici, bah, je suis surtout le cousin de Rebecca, en vrai. Hein. Voilà, comme ça c'est fait. Hein. On est en famille. Et alors, je suis marié. Pour moi, ça va bien. Si ça va pour vous, pour moi, ça va bien. Et nous avons 5 enfants. Alors, je suis tout seul ce matin. Juste, j'ai fait l'aller-retour rapidement mais pour rendre service ici. Et je suis heureux de rendre ce service. Mais la famille est restée. Restez là-bas. Désolé pour ceux qui espéraient plutôt voir ma femme que moi. C'est moi. quelques nouvelles du feu où je travaille, pour ceux qui prient, pour les étudiants, pour ceux qui viennent de toute la planète pour étudier en France. Le mois de novembre, décembre sont des mois extraordinaires. On a l'occasion de voir le plus d'étudiants, c'est toujours au mois de novembre. La courbe classique d'une année d'études, c'est le plus de fréquentation au feu, c'est toujours novembre. Après, il y a les examens en décembre, ils prennent conscience que il va falloir faire quelque chose. Mais en novembre, il y a énormément d'étudiants et donc beaucoup d'occasions de partager l'évangile. C'est des mois fantastiques où on voit Ézéchiel 18 et Luc 8, où on voit la tension entre ceux que Dieu cherche à convaincre et attire à lui et le diable qui œuvre aussi. Vrai sujet de prière. Alors, mon sujet ce matin, c'est alors de réfléchir d'abord à ce que je vous souhaite. Voilà. Hier, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter de mieux, qu'est-ce que je peux souhaiter de mieux à une église que je connais un peu, quelques membres, mais pas tant que ça non plus. Et puis de ce que je connais de l'église des derniers temps, je sais qu'il y a eu des épreuves. La vie n'a pas toujours été simple dans cette église. C'est peut-être la preuve que c'est une vraie église. Enfin, en tout cas, la vie n'a pas toujours été simple. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter ? J'imagine la même chose qu'à tous les chrétiens, mais peut-être est-ce qu'il y aurait quelque chose de particulier ? Alors j'ai essayé de réfléchir en me disant, tiens, si je vous écrivais une carte postale, j'écrirais, voilà, chère église du CEP de Saint-Quentin, je vous souhaite... Je ne sais pas si vous avez déjà écrit une carte postale comme ça à quelqu'un, vous commencez, je te souhaite, tu es là devant la carte, tout le monde va écrire un mot. Après, tu continues par-dessus tout, parce que tu ne sais pas encore ce que tu vas écrire. Après, tu te dis, tiens, chérie, continue, je ne vais pas tout écrire tout seul non plus. Je te souhaite de te souvenir de Jésus-Christ. Voilà, alors, souviens-toi de Jésus-Christ. En fait, je triche, hein, c'est pas de moi. C'est bien l'apôtre Paul qui a écrit ce vœu à Timothée. On est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Et je vais citer pas mal de textes ce matin. Ils seront tous dans 2 Timothée. Pour le contexte, c'est la dernière lettre que l'apôtre Paul écrit. C'est une lettre très personnelle où il cherche à encourager Timothée. Et si j'essaye de résumer, on pourrait dire qu'il essaye d'encourager Timothée à rester fidèle à Dieu. Freddy le disait dans sa prière, donne-nous de te rester fidèle. Ben voilà, c'est ce que Paul souhaite à Timothée, reste fidèle à Dieu. Et pour rester fidèle, il va donner plein de conseils différents, mais il me semble que le conseil prioritaire de toute la lettre est « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Ça peut se discuter. Mais il me semble que c'est ça. Pour rester fidèle à Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ. Alors, en lisant toute la lettre, pour vous qui l'avez déjà fait, j'imagine, on réalise que Paul, comme Timothée, pour les deux, rester fidèle, c'est un vrai défi. C'est pas comme si leur vie était facile, exemple d'épreuve, que tout roule, et donc rester fidèle à Dieu est juste une évidence. Avant d'aller plus loin, petite parenthèse, rester fidèle à Dieu, ça veut dire quoi ? Être fidèle à Dieu ? Bon, si on veut rester fidèle, c'est quand même bien de savoir ce que c'est. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de prendre des covoitureurs, Blablacar, et de fil en aiguille, on arrive à des discussions, et bon, on sait jamais trop comment orienter les discussions. Donc à un moment donné, je leur ai dit un peu ce que je faisais dans la vie, et je leur ai dit, tiens, par rapport à une préparation que je fais là, pour vous, rester fidèle à Dieu, ce serait quoi? Alors, il y a une jeune fille, en troisième année de droit, qui dit ben, « Rester fidèle, c'est déjà pas aller voir ailleurs quand ça va mal. » Je dis « Ouais, c'est pas mal. Je garde. » Bonne réponse. « Rester fidèle, c'est pas aller voir ailleurs quand ça va mal. » Et je lui dis « Quand ça va bien, il n'y a rien à faire du coup pour rester fidèle ou c'est que quand ça va mal que ça se voit ?» Ben non, quand ça va bien, on travaille la relation quand même. On laisse pas tomber. Ouais, je pense très bien. J'aime ta réponse. C'est celle que je vais donner. Ouais. L'objectif de rester fidèle à Dieu, bah, pas les voir ailleurs quand ça va mal. Hein. Et puis quand ça va bien, bah, continuer à travailler la relation. Grandir dans une foi, d'une foi vivante, où il y a une confiance. Confiance qui n'est pas juste une confiance théorique qu'on affirme le dimanche, mais une confiance qu'on expérimente. Petit à petit qui grandit, où on voit que même quand on ne comprend pas les situations de la vie, la confiance est là. Vous voyez la différence entre confiance affirmée le matin et je peux très bien être confiant en Dieu le matin en ouvrant ma Bible et en disant c'est toi qui comptes le plus dans ma vie, et je vais lire la parole et je veux être inspiré par cette parole et je veux t'obéir. C'est un acte de foi. Et puis ensuite, 3 heures plus tard, quand il se passe quelque chose dans ma vie et que je ne comprends pas du tout ce que Dieu est en train de faire, et qu'à sa place, j'aurais vraiment fait autre chose. Il y a une autre confiance. Celle de dire, là aussi, je te fais confiance. Tu sais mieux. Tu es souverain. La solution que toi, tu vas apporter à ce problème est la meilleure. Même si moi, j'ai déjà réfléchi à une solution, et qu'au final, c'est peut-être celle-là, pas celle-là que tu choisiras. Confiance renouvelée, même dans le brouillard. Moi qui travaille avec les étudiants, je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui viennent de familles chrétiennes qui ont démarré avec cette confiance. Tu comptes plus que tout pour moi, je te fais confiance, oriente ma vie. Et à un moment donné, l'épreuve arrive. Le tiraillement. Tout à coup, la personne qu'ils aiment le plus ne connaît pas Dieu. Et il va falloir choisir Dieu ou cette personne. Et là, on passe à une autre confiance. Tu sais mieux, dans les moindres détails. Et je veux te faire confiance là aussi. Et parfois, il faut du temps pour passer d'étape 1 à l'étape 2. Rester fidèle à Dieu. Pas aller voir ailleurs, travailler la relation, grandir dans cette confiance. Imaginez le défi pour l'apôtre Paul, pour rester fidèle. Il sait, quand il écrit de Timothée, qui va bientôt payer de sa vie physique sa foi en Jésus. Il a sacrifié son confort pour servir, ça fait bien longtemps qu'il l'a fait. Mais là, il va payer de sa vie. On est environ 67, il est en prison, il va bientôt mourir. Difficile, vie difficile, abandonné des hommes, je lis chapitre 1, verset 15. « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Et ça semble juste être la continuité de sa vie. Chapitre 2, verset 11. « Quelle persécution n'ai-je pas supportée ?» Sa vie était juste complexe. Et pour Timothée, à qui il écrit, le présent de Timothée n'est pas forcément simple non plus, et son futur s'annonce compliqué. D'ailleurs, Paul va encourager Timothée à être fidèle, fidèle à Jésus, si je fais le plan de la lettre, chapitre 1, fidèle à sa mission, chapitre 2, fidèle dans son enseignement et sa conduite, chapitre 3 et chapitre 4, fidèle malgré l'opposition et jusqu'au bout. Donc c'est un vrai défi de rester fidèle. Ça en dit long sur la complexité de la vie de Timothée aussi. Et Paul ne cherche pas du tout à rassurer Timothée en lui disant « Mais tu vas voir, là il y a un peu de brouillard, mais dans cette vie sur terre, tu vas voir à un moment donné, ce sera beaucoup plus simple. » Pas du tout. Je lis encore, chapitre 3, versets 12 à 13. « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ, donc pieusement en Jésus-Christ, attachés à Jésus-Christ, hein, en relation avec lui, seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. » Paul annonce clairement à Timothée que la vie ne sera pas facile. Même il lui demande d'être prêt à souffrir. Chapitre 1, verset 8. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. » Souffre avec moi pour l'Évangile. Garder la foi, rester fidèle à Dieu, ce n'est pas une chose facile. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que Paul dit à Timothée. Des doutes, des tentations, tentations de vivre une vie plus simple que cette vie qui semble parfois compliquée. De l'opposition, des moqueries, de la fatigue de discussions inutiles. On voit chez l'apôtre Paul. Des conflits, des souffrances intérieures, parfois même physiques. C'est la vie de l'apôtre Paul, ce sera la vie de Timothée, et ce sera la vie, d'après ce texte qu'on a lu, hein, de tous les chrétiens qui veulent être fidèles à Dieu. Alors il y aurait de quoi trembler, stresser, un peu au moins, en regardant nous-mêmes, en tout cas c'est clair. Mais à ce moment-là, il faut juste se rappeler que Paul écrit à Timothée pour l'encourager. L'objectif de 2 Timothée, c'est pas... Tu galères, Timothée ? Ah, tu vas voir ce qui arrive, mon gars. Tu vas prendre cher. c'est rien encore pour l'instant. Non, l'objectif de l'apôtre Paul est bien d'encourager Timothée, de la même manière que ce livre est dans la Bible, pour nous encourager. Alors comment ? Comment est-ce que ce livre peut nous encourager à rester fidèles ? Je pense premièrement, en regardant la réalité comme elle est, être chrétien, c'est en partie souffrir. Et deuxièmement, en sachant qu'on peut compter sur la puissance de Dieu. Je lisais chapitre 1, verset 8. « Souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » Et pour l'apôtre Paul, ce n'est pas juste une théorie qu'il est en train d'expliquer à Timothée. C'est quelque chose qu'il a expérimenté. Et c'est ce qu'il veut partager dans cet épître. « Je l'ai expérimenté, c'est vrai, c'est de l'or en barre. Tu peux construire dessus. » Regarde, chapitre 4, versets 6 à 8. « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Regarde Timothée, j'ai pu le vivre grâce à Dieu, et Dieu est le même aujourd'hui. Tu peux rester fidèle, tu peux garder la foi, c'est possible. Et l'apôtre Paul dans l'épître ne va pas juste dire à Timothée c'est possible, il va dire comment est-ce que c'est possible. C'est possible de lui rester fidèle, et il va donner plein de conseils à Timothée sur le comment. Par exemple, on va voir, de regarder à ceux qui ont transmis la foi. Par exemple, de se focaliser sur la parole de Dieu. Chapitre 3. Mais selon moi, c'est mon sujet du jour, l'exhortation principale est tellement simple. Souviens-toi de Jésus. Je lis donc 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. En lisant rapidement, on pourrait dire, mais qu'est-ce que Paul espère en disant ça à Timothée ? C'est-à-dire, souviens-toi de Jésus. C'est quand même un conseil, ben, c'est hyper simple, on pourrait presque même dire bateau, enfin je veux dire, qui est Timothée ? Est-ce que Timothée n'est pas capable de se souvenir de Jésus ? Timothée annonce l'évangile, Timothée enseigne, il a consacré sa vie à l'église de Dieu. Comment pourrait-il oublier Jésus ? Est-ce qu'il faut vraiment lui rappeler ? En fait, dans la vie chrétienne, l'essentiel est toujours un rappel. C'est la première chose qu'il faut se rappeler. L'essentiel est toujours un rappel. Quand il y a quelque chose de croustillant, c'est probablement pas l'essentiel. L'essentiel est toujours un rappel. Regardez à Jésus, c'est la clé pour lui rester fidèle. Je me souviens très bien, étant enfant, et peut-être certains qui ont grandi avec des parents chrétiens connaissent bien ça. J'allais à l'église, et au moment de la scène en particulier, mais même en écoutant les personnes prier, comme certains ont prié ce matin, je me disais, comment c'est possible que des vieux soient encore émerveillés par l'histoire de Jésus qui est mort sur une croix et qui est ressuscité ? En fait, moi, je la connais, l'histoire. C'est chaque dimanche la même chose. Moi, je ne sais pas, j'avais envie d'apprendre à connaître autre chose. Là, j'aurais été ébloui, j'aurais dit « Ah ouais, ça, ça fait clac-clac dans la... Ah, waouh !» Et là, il y a des papis, c'était chaque dimanche la même chose. Et pourtant, ils semblaient émerveillés. Là, ça me surprenait. Et avec Rebecca, puisqu'on a le même grand-père, je me souviens très bien qu'à Noël, il était émerveillé en lisant l'histoire de la naissance de Jésus dans Luc. Moi, j'attendais plutôt les cadeaux, chacun son truc. Hein. Lui, bon, il recevait une cravate, il faisait l'air. Genre, je suis un peu content. Et il remballait sa cravate. Mais quand la grand-mère, oui, parce que c'est elle qui disait comment ça se passe. Quand la grand-mère disait, maintenant, tu peux lire l'histoire de Noël, c'est un autre homme. Il prenait les yeux brillaient. Il allait lire l'histoire. Je me disais, c'est quand même la même que l'année dernière. Hein? En vrai. L'essentiel est un rappel. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. En fait, en un verset, Paul redit simplement l'évangile à Timothée. C'est tout. La bonne nouvelle, Jésus, Messie ressuscité, issu de la descendance de David. Je vais quand même zoomer un petit peu. Jésus, le Messie, le Christ, loin, celui qui a été choisi, celui qui était attendu pour régler le problème du péché. Problème du péché qu'il a réglé à la croix pour payer pour le péché de tous ceux qui croient.
C'est un rappel.
L'essentiel est un rappel. Le Messie, celui qui était attendu grâce à l'œuvre du Messie, Paul va dire, chapitre 1, verset 3, je mets tout dans le même livre, hein, chapitre 1, verset 3, il va dire qu'il a une conscience pure, et c'est certainement pas en regardant à lui-même. Il le dit souvent qu'en regardant à lui-même, son passé, il y a des choses dont il n'est pas fier. C'est bien en regardant au pardon divin. Lui se souvient de Jésus, le Messie, celui qui a été choisi, celui qui était attendu pour régler le problème du péché. Celui qui fait que toi, moi, nous pouvons avoir une conscience pure aujourd'hui. Ça aide à lui rester fidèle. Le Messie est ressuscité. Sa résurrection, le signe de la victoire sur le péché, sur la mort. Jésus vivant auprès de son Père, sa résurrection est le signe que nous ressusciterons. Sa résurrection est le signe de notre résurrection. Nous le rejoindrons dans la gloire pour nous tous qui croyons en son œuvre. Sa résurrection, le signe de notre résurrection. C'est UN plus 1 pour ceux qui se rappellent des suites. Il est ressuscité, on va suivre. Plus 1, plus 2, plus 3. C'est juste une suite logique. Peut-être certains d'entre vous se souviennent, il y a quelques années, j'étais choqué en voyant la date, 2010. Waouh, pour moi c'était... avant-hier. Il y a quelques années, il y avait 33 mineurs qui étaient coincés au fond d'une mine au Chili, à 700 mètres de fond. Vous vous souvenez? Ça faisait la une des infos. Les plus jeunes me regardent en mode, mais tu parles de quoi? Ah, bon, ouais. Vous pouvez regarder, il y a des vidéos, c'est impressionnant. 33 mineurs coincés et toute la famille qui était en surface, et ça semblait impossible suite à un éboulement de pouvoir les rejoindre. 700 mètres sous terre. Et là, ils ont tenté quelque chose. Ils ont commencé à forer pour essayer de les rejoindre. Vous imaginez, là, pour localiser où est-ce qu'ils peuvent être, pour forer 700 mètres de roche. Bon, ça me semble incroyable. Et le stress à la surface était terrible avec les heures qui passaient. Et 2 mois plus tard, ils ont réussi à sortir les 33 mineurs. Mais le stress n'a pas duré 2 mois. Le stress a duré 2 semaines. Parce qu'après 2 semaines, un premier forage a réussi à atteindre les mineurs. Alors le diamètre ne permettait pas de remonter un mineur. C'est clair. Mais un mineur, que je cite, disait quand on a commencé à entendre les foreuses qui s'approchaient de nous, notre âme a rejoint notre corps. C'est comme s'il reprenait vie, rien que d'entendre qu'on les cherchait. Qu'il y a des foreuses qui s'approchaient. Et puis la foreuse est arrivée dans le puits, ils ont peint en rouge, ils ont mis un petit mot, les 33, nous sommes vivants, et puis elle est repartie. Et à partir de là, il savait, on sera sorti. On sortira de là. Petit trou, mais la lumière brillait déjà. Ils savaient qu'ils allaient sortir. Jésus est ressuscité. C'est pareil pour nous. La lumière brille déjà. Il n'y a plus de stress. C'est juste une question de temps. On le rejoindra. Et certains qu'on aime l'ont déjà rejoint. La lumière brille. Souviens-toi de Jésus, le Messie, ressuscité. Issu de la descendance de David. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Peut-être que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu avait annoncé ce serait de la descendance de David que viendrait le Messie, et c'est le cas. Certainement. Alors, en tout cas, ça peut être un point. J'imagine que ça peut être encore plus que ça. Issu de la descendance de David, c'est rappeler que Jésus était pleinement homme sur cette terre, que lui aussi a connu rejet, tentation, humiliation, abandon, souffrance, et qu'il est resté fidèle. Et que vivant aujourd'hui, puisque ressuscité, il peut secourir l'apôtre Paul, Timothée, nous soutenir. Il soutient Jésus vivant, ceux qui ont la foi en lui, même quand ils se sentent abandonnés des hommes. Chapitre 4, versets 16 à 17, l'apôtre Paul dit « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. » Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié. Jésus vivant, soutien. C'est merveilleux. Alors Timothée, frère et sœur du CEP de Saint-Quentin, nous tous qui croyons en Jésus, souvenons-nous de Jésus, le Messie, nous sommes pardonnés, en paix avec Dieu, ressuscité, il est vivant, la lumière brille déjà. Issu de la descendance de David, il peut et va nous soutenir dans notre mission de vivre pour lui. À vrai dire, ça change toute la vie de se souvenir de Jésus-Christ de cette manière-là. Vraiment, pas que les problèmes disparaissent, simplement qu'ils ne sont plus vus sous le même angle. Et la vie de Paul le confirme, le manifeste. C'est comme si Paul essayait de dire à Timothée, le problème dans la vie chrétienne, c'est pas les problèmes. Le problème dans la vie chrétienne, c'est de regarder au mauvais endroit quand viennent des problèmes. Et pour l'apôtre Paul, c'est pas juste des belles paroles, des beaux conseils d'un enseignant à la faculté. C'est ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté. Je lis la suite de 2 Timothée 2, verset 8. « Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche, et pour lequel... je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Qu'est-ce que ces versets disent de Paul ? La première vérité, il souffre. Enchaîné comme un malfaiteur, le même mot que pour les brigands à gauche et à droite de Jésus sur la croix. Et il supporte. Et on se doute que c'est très dur. Mais ce n'est pas la seule réalité qu'il voit. Il voit une autre réalité. La prison est une réalité, mais l'avancée du royaume de Dieu en est une autre. Et la parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée. D'autres peuvent obtenir le salut qui attend Jésus-Christ. Et c'est sur cette vérité qu'il veut fixer les regards. Paul est en train de vivre ce qu'il dit à Timothée, ce qu'il écrit à Timothée. Il se souvient lui-même de Jésus, le Messie, qui pardonne des péchés, qui peut encore sauver. Il se souvient lui-même que Jésus est ressuscité. La preuve, il se réjouit de savoir que certains rejoindront Christ dans la gloire éternelle. Il se souvient lui-même que Jésus est issu de la descendance de David, et que Jésus vivant peut lui permettre de tout supporter aujourd'hui. Ça change la vie. Comment rester fidèle à Dieu ? Quand tout va pour le mieux, peut-être on se pose moins la question, et quand même, le livre du Deutéronome nous encouragerait vivement à se poser la question, même quand tout va pour le mieux, selon les critères de ce monde. Et quand la vie se complique, en regardant à nous-mêmes, on sera stressé. Mais pas en se souvenant de Jésus. Je conclue en illustrant ce propos. Depuis quelques années, en famille, on a l'habitude d'aller en Bosnie avec quelques étudiants pour servir là-bas. Et il y a des coins merveilleux en Bosnie. Des cartes postales fantastiques. Entre autres, un de mes endroits préférés, le lac de Boraško. C'est un lac magnifique dans les montagnes. Il faut s'imaginer les montagnes tout autour. Presque pas d'habitants. Un lac fantastique où les montagnes se reflètent. Un lieu paradisiaque. De ce lac naît une petite rivière. Très belle aussi. Mais cette petite rivière rejoint une autre petite rivière, etc. Juste à ce que cette rivière se transforme en un rapide qui passe dans un canyon. Et le lieu est en fait très connu pour le rafting, plus que pour le petit lac paisible. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, tu peux rester fidèle, tu peux rester vivant sur le lac ou sur les rapides. Les deux sont possibles. Dieu peut te tenir dans les deux. Alors, je ne sais pas si certains ici ont déjà fait du rafting. Vous savez, c'est un bateau gonflable avec les pagaies, là où on est à quelques-uns dessus. J'imagine que ce n'est pas plus une spécialité de Saint-Quentin qu'une spécialité de Lille. Mais si un jour vous faites du rafting, vous allez avoir un moniteur. Et si vous comprenez sa langue, ce moniteur va vous donner plein de conseils. Mais il va vous préciser qu'il y a un conseil qui est vital. Les autres, tu peux les retenir, mais il y en a un qui est vital. Donc il y en a plein à retenir, du genre, avec ta pagaie, si tu peux éviter de la mettre dans la tête de celui qui est derrière, tout ça, il y a plein de conseils, oui. Mais un qui est vital, c'est au moment où le raft va passer sous l'eau, parce qu'il va passer sous l'eau, avec tout le monde dedans, au moment où il va passer sous l'eau et que tu penses que tu vas te noyer, souviens-toi juste d'une chose. Il y a, tout le long du bateau, une ligne de vie. Sur certains, c'est des poignées. Mais une ligne de vie, tout autour du bateau. Il faut juste que tu te tiennes à la ligne de vie. Ça passera sous l'eau, ça repassera au-dessus de l'eau, ça repassera sous l'eau. Mais si toi, tu te tiens à la ligne de vie, tu seras encore sur le bateau quand il sort de l'eau. De nombreuses personnes avant toi sont passées sur ce bateau. Ce raft a déjà vécu des rapides bien plus dangereux que celui-là. Parfois au-dessus de l'eau, parfois en dessous, si tu te tiens à la ligne de vie, tu seras encore là à l'arrivée. C'est aussi simple que ça. Et dans la vie chrétienne, parfois un merveilleux lac. On le vit, le merveilleux lac. La paix, la vie facile, des moments de joie. Parfois rivière tumultueuse. Maladie, doute, déception, souffrance, tension. Et j'imagine, avec Noël qui approche, quand vous pensez à Noël, pour certains, vous pensez merveilleux lac. Pour d'autres, rivière tumultueuse. Et pour beaucoup, un mélange des deux. Quelle va être la proportion? Tous les êtres humains vont connaître le lac et la rivière tumultueuse. Pour la proportion, c'est Dieu qui choisit. Et comme je l'ai dit, la confiance, la foi, c'est de persuader qu'il sait mieux. C'est lui qui choisit les proportions, c'est pas à nous de le définir. Et il faut bien avouer que parfois on ne les comprend pas. Quand on se lève le matin et qu'on lit la Bible et qu'on dit « c'est toi qui compte le plus », il faut bien être conscient que parfois au milieu de la journée, on doit dire « c'est sur toi qu'on compte le plus ». Vraiment, viens nous secourir. Mais l'essentiel pour rester fidèle, la ligne de vie, souviens-toi de Jésus. Noël approche, j'imagine on va encore beaucoup parler de Jésus dans les semaines qui viennent. Mais je vous encourage à pas juste regarder Jésus dans la crèche et je suis persuadé que vous le ferez par en vous focalisant juste sur la naissance, même si c'est un point important, mais nous souvenir de Jésus, le Messie, ressuscité, issu de la descendance.